Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler aujourd'hui pendant environ trois quarts d'heure, et trois quarts d'heure seront très largement insuffisants, ça pourrait durer au-delà, bien au-delà, de la place Marius Pinel à Toulouse. La place Marius Pinel à Toulouse, bon, probablement dans la salle, assez peu de gens en ont entendu parler, peut-être même certains ont-ils un léger doute quant à son existence, mais la place Marius Pinel à Toulouse est une chose qui m'occupe beaucoup, qui occupe un certain nombre de mes amis, et dont le nom a une place, écoutons-le, Marius Pinel. Marius Pinel, Marius Pinel. Aussitôt, certains disent, peut-être dans leur tête, ils se trompent peut-être en parlant de Marius Pinel, parce que certains peut-être sont parisiens et savent qu'à Paris il y a une place Pinel, et ils ont vu écrit sur la place Pinel, place Philippe Pinel, l'aliéniste, celui dont on parle dans un livre qui s'appelle Le Fou de Bicêtre. Non, 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 Marius Pinel. Ce n'est pas non plus le boulevard Pinel à Lyon. Boulevard Philippe Pinel, l'aliéniste, 19e siècle. Il s'agit bien de Marius Pinel. Et même, s'il y a des Toulousains dans la salle, et peut-être y a-t-il des Toulousains, et peut-être y a-t-il des gens de Rabastens, et peut-être y a-t-il des gens de Gaillac, il est très possible de connaître Toulouse, et même de connaître assez bien Toulouse, et de n'avoir jamais entendu parler de la place Marius Pinel. Faut-il dire que la place Marius Pinel a peu de place dans l'imaginaire chinois, américain, français, martien et même toulousain. Et pourtant, il faut tout de même mettre les choses à leur place. La place Pinel est une place. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une place, tout de suite? Une place, on se dit, c'est un espace vide. Mais ce n'est pas simplement un espace vide, c'est un espace vide avec une forme. Il y a des places rondes, des places carrées, des places triangulaires, des places longues, des places... Et dans cette forme limitée par des murs, des rues, souvent vient s'inscrire un certain nombre de choses. Par exemple, un monument, par exemple, un jardin. Et puis des gens passent et des gens ont des aventures, des gens lisent des journaux, les gens boivent, les gens se rencontrent, les gens se battent, les gens s'assassinent, les gens font des choses. Donc la place est quelque chose qui laisse de la place à toutes sortes de places. En fait, la place, c'est une sorte de poupée qui gigogne, et dans toute place, il y a de la place pour de la place. Ou plutôt, dans toute place, il y a de la place pour des places, pour des places, pour des places, pour des places, et au bout du compte, on se déplace dans la place, ce qui permet l'infini, en quelque sorte. Eh bien, la place Marius Pinel, de ce point de vue, est une place comme toutes les places. C'est une place comme il y en a tant, comme à La Grâce, il y a une place, comme à Carcassonne, il y a une place, comme à Narbonne, il y a une place, comme à Rome, il y a une place, comme à Tiananmen, chez Pékin, il y a une place. La place, mieux que le bon sens, est la chose du monde la mieux partagée. Pas de ville sans place. La place Pinel est une place parmi toutes les places. La place Pinel est une place quelconque, absolument quelconque, banale. Si je vais en parler, c'est vraiment pas pour nier cette non-singularité en tant que place de la place Marius Pinel. Mais le côté médiocre, banal, plat, c'est une place plate, c'est une place où aucun grand événement historique s'est produit, bien qu'il se soit produit auparavant des événements historiques dans cet endroit-là, eh bien, n'empêche pas que l'on puisse en parler longuement, durablement, bien au-delà de cette soirée, dans les nuits et dans les jours qui nous suivront, et que vous risquez d'être hanté par la place Marius Pinel. Alors, Jocelyn, j'ai l'habitude de travailler avec Sébastien, Jocelyn fait apparaître la place Marius Pinel par une photo assez quelconque. Elle est derrière moi. Donc ce que vous voyez est une place, en effet. Un homme marche, il y a une pelouse. Intéressant, c'est une place dans laquelle il y a une pelouse, une place dans laquelle il y a un espace libre dans lequel on peut entrer le jour et la nuit. Une aire de jeu pour enfants, quelques arbres. Cette place, donnant quelques indications géographiques, elle se trouve dans un faubourg légèrement périphérique de Toulouse, à environ 20 minutes, 30 minutes à pied selon l'âge de la place du Capitole, dans le quartier Bonheur-Guillemery, et vous l'apercevez vaguement, elle est entourée de rues, elle est entourée de petites maisons, de petits immeubles. Elle est plate, du point de vue de la surface, elle était originellement supérieure à la place du Capitole. Elle a été inaugurée en 1929. Mais c'est surtout en 1933 qu'apparaît dans cette place, comme dans beaucoup de places, un monument. c'est-à-dire un objet qui doit nous avertir. Ce monument, le voici, c'est le kiosque, fameux kiosque de la place Marius Pinel, photo numéro 2. Voilà. Voilà un kiosque. Alors, ce kiosque, naturellement, on peut le décrire assez rapidement, il est plus ou moins Art Nouveau. Il est l'œuvre d'un architecte dont on parlera tout à l'heure. Il y a 10 colonnes qui sont en béton. Il y a des petits éléments de mosaïque. Il y a par-dessous un espace vide. Vous avez des petits trous qui apparaissent. Ce kiosque est un peu surélevé. Il y a une voûte en béton par-dessus. Et puis, voilà, apparemment, voilà un kiosque. À droite, l'aire de jeu pour enfants, telle qu'elle était il y a quelques années, telle qu'elle n'est plus. On reviendra sur ces détails tout à fait importants. Et voilà donc un kiosque dans lequel, comme vous le voyez, il n'y a aucun groupe de musique qui joue. Et en effet, ce kiosque ne sert à rien. Même le soir de la fête de la musique, aucun groupe de musique ne joue jamais dans ce kiosque. Absolument personne ne vient dans ce kiosque. Or, ce kiosque, pour aller très rapidement, voici une autre image peut-être de ce kiosque, maintenant photo numéro 3, en hiver, vous voyez, il neige sur la place Pinel. La place Pinel appartient au monde, elle est climatiquement située, elle est dans l'hémisphère nord, et donc il y a parfois des transformations. Vous voyez là, un petit peu sur le côté est de la place, ouest de la place Pinel, vers légèrement le bas, vous voyez l'étendue de la pelouse. Une autre photo peut-être qui nous montrera quelques détails peut-être du kiosque. Voilà un autre aspect de ce kiosque, il est assez remarquable. Donc c'est ces trois étages, la voûte, la partie creuse, et puis la partie centrale. Et puis enfin, peut-être une dernière image qui pourra nous donner peut-être les escaliers, l'escalier du kiosque. Vous voyez, il y a donc 7 marches qui permettent de monter dans le kiosque. Et donc, il y a 6 marches et 7 espaces libres. Donc, on reviendra un petit peu sur cette numérologie particulière. Et on peut donc monter dans le kiosque. Donc, jusqu'à présent, ce kiosque ressemble un peu à tous les kiosques, sauf que je vous indique que ce kiosque ne fait pas de musique en général. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ce kiosque date exactement de l'arrivée d'Hitler au pouvoir et exactement de la projection de King Kong, c'est-à-dire de 1933. En 1933, trois événements ont lieu dans le monde. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, on est à la fin de la crise de 29, vous savez bien, qui va jouer son rôle là-dedans. King Kong envahit New York et la municipalité de Toulouse demande à l'architecte Jean Montariol, qui ensuite sera un collaborateur, tout ce qu'on veut, très bien, donc de construire ce kiosque. Dans quel plan est-on? Donc on est sous la municipalité de Toulouse, Étienne Billière. Étienne Billière est un socialiste, ça existe, qui donc a été élu dans le cadre de la crise de 29 pour construire, pour relancer l'économie et l'activité à Toulouse, ce qu'il fait en construisant une grande bibliothèque municipale, en construisant une grande piscine, la plus grande d'Europe à l'époque, en construisant un nombre très considérable de chiottes publiques, d'écoles, etc., qu'il demande à Jean Montariol pour créer des chantiers, des travaux. Et donc, il invente de créer une nouvelle place, qui va s'appeler la place Pinel, dans laquelle, en 1929, il décide, en 1933, de faire construire un kiosque pour que le peuple puisse écouter de la musique, se réunir, se rassembler. On est dans l'idée d'un grand socialisme municipal, il faut un kiosque. Or, Jean Montariol fait un kiosque assez particulier, celui-ci, qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que, effectivement, quand on est dans ce kiosque, il se passe un événement tout à fait particulier, c'est que si on se met en gros au milieu du kiosque, et les chiens l'expérimentent souvent avec moi, les enfants aussi de l'école voisine l'expérimentent aussi souvent, et un traducteur de Pessoa, un de mes amis, le connaît depuis son enfance, Patrick Quillier, donc un certain nombre de fous, de poètes, Serge Paye vient aussi avec moi assez régulièrement, André Mainviel, et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien la voix résonne indéfiniment, c'est-à-dire que la voix s'élève vers le plafond, une fois qu'elle est au plafond, comme c'est une courbe en béton concave, elle est renvoyée vers les pieds, mais quand elle touche les pieds, elle touche aussi le ciment avec le creux par dessous se met en vibration. La vibration reproduit un son qui remonte au plafond, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'habiter dans le son dans lequel on est. C'est-à-dire, on est traversé par le son même dans lequel on est. Ce qui fait que même un très mauvais chanteur comme moi a l'impression de faire une musique admirable, la musique des sphères, puisqu'en effet, j'entends ma voix démultipliée à l'infini, je suis dans ma propre voix. Dès lors, un musicien normal, correct, ordinaire, enfin, sans courir, ne peut pas faire de la musique, parce que ce qu'il entend, il est seul à l'entendre, même s'il fait pointe. Il entend son poète admirable, et à l'extérieur, on n'entend en gros rien. Donc, évidemment, c'est à peu près un kiosque injouable. Voilà la première chose. Alors, on va passer à une petite vidéo. Est-ce que la vidéo peut être envoyée qui permettra d'avoir une petite idée de l'effet sonore de ce kiosque que l'on vient du monde entier pour visiter?
Marius Pinel. Pinel.
vous voyez, l'effet sonore assez considérable. Donc c'est absolument injouable. Si on siffle, quoi qu'on fasse, voilà. C'est absolument décourageant. Les seuls qui arrivent à l'utiliser pour faire de la musique, c'est soit les poètes fous dans ce genre, soit des jeunes qui mettent d'énormes baffes et qui jettent la musique violemment vers l'extérieur. Donc c'est une expérience physique à faire absolument que de rentrer dans ce kiosque et d'écouter sa voix avec les chiens, les enfants, les gosses, quelques clochards, SDF et bon. On peut l'arrêter pour l'instant un petit peu, cette vidéo qui au bout d'un moment, elle devient un peu obsédante. Hein. La place Pinel, c'est une répétition du même à l'infini. C'est pour ça que ça peut durer très longtemps. Et ça finit par prendre vraiment la tête. Et donc, il y a ce kiosque qui ne fonctionne pas. Évidemment, les questions sont très vastes. Pourquoi? Comment? Enfin, voilà, des questions historiques, morales, philosophiques. Quels sont les enjeux de ce kiosque? On verra qu'on va être obligé de convoquer, évidemment, l'histoire du monde, naturellement, mais aussi Mallarmé avec le Ptix. Vous savez, ce Ptix, qui est le mot qui n'existe pas, qui est une coquille creuse que Mallarmé met à l'intérieur de ses poèmes. Alors, si je vais maintenant me demander un petit peu quelques détails sur la place Pinel, avant de revenir vraiment sur le kiosque, si je vais un peu en visite de la place Pinel, je m'aperçois donc qu'il y a effectivement quelques indications sur ce nom, Marius Pinel, qui par lui-même est un nom assez étrange. Parce qu'évidemment, Pinel, nom très commun dans le Midi, je vois aussitôt que j'entends simplement pas mal de choses. Pinel, Pinel, Pin, 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 plein. Si je retourne les lettres, la place Pinel est plein de quoi? Elle est plein de Pinel. Et donc je me dis que Pinel est un nom plein de quelque chose, du nombre pi qui finit en N et qui finit en L. Le nom Pinel s'envole à partir du pi à l'infini. Et puis il y a ce nom de Marius. Hein, Marius, Marius, Marius et César, Marie et plein de choses qui sont à l'intérieur de ce nom. Et puis, il y a immédiatement adjoint au maire, 1864-1928, oui. Mais je passe à la photo suivante et un doute me prend. La photo suivante, s'il vous plaît. Marius Pinel, sociologue, 1840-1913. Alors, je reviens à la photo précédente, hein, voilà. Alors, naturellement, les observateurs honorables disent « Quelle est la vérité ?» C'est la grande question. Quelle est la vérité si sur une place, il y a écrit adjoint au maire, 1928, et à la place suivante, sociologue, 1920 ou 1900, je ne sais plus combien, sa mort. Alors, en fait, la vérité, c'est ce qui s'appelle, pour les grands pinélologues dont je suis, le double glissement Bebel. Le double glissement Bebel, on va passer à la photo suivante. Et la photo suivante encore, ça va vous permettre de comprendre. Voilà, donc, donnant sur la place Pinel, la rue Ferdinand Bebel. Là, il y a écrit « Sociologue, 1840-1913 ». Bon, alors que se passe-t-il? Ferdinand Bebel ne s'est jamais appelé Ferdinand Bebel, bien entendu. Bon, on est place Pinel, les choses, on est dans un espace tout à fait étrange, hein, la place Pinel. Donc, il s'agit en fait d'Auguste Ferdinand Bebel, qui est compagnon de Karl Marx, l'auteur d'une phrase célèbre, « L'antisémitisme et le socialisme des imbéciles ». C'est aussi un grand méditatif sur la question féminine dans le marxisme. Donc ce type, à Toulouse, c'est un Allemand, bon, marxiste, donc la municipalité de gauche avait besoin d'un marxiste de plus, et donc on l'appelait, dans la grande tradition des aventures de Ferdinand, que certains étudient sans doute avec soin dans la Dépêche du Midi, vous savez, c'est cette petite BD absolument incompréhensible, mais qui ferait méditer les plus grands philosophes du monde, on l'appelait Ferdinand pour le ramener à un nom français, parce qu'Auguste Fernand, c'est pas possible, mais ben, sociologue, il l'a jamais été en réalité, et évidemment, les équipes municipales, extrêmement cultivées, d'accord, ont opéré, et ça c'est la grande poésie, un glissement de Pinel vers Bebel et de Bebel vers Pinel, que nous appelons traditionnellement le double glissement Bebel. Alors, nous avons signalé ça, évidemment, j'ai fait des photos. Ces choses n'existent plus tout à fait telles quelles, parce que malheureusement, j'ai des relations avec la mairie de Toulouse, et j'ai prévenu Boudin à l'époque, Cohen, de nouveau Boudin, etc. Parce que c'est extrêmement compliqué, la place Pinel, vous comprenez, l'action municipale est déchaînée sur la place Pinel, vous verrez tout à l'heure les résultats actuels. Ce qu'opère Boudin, il ne pense qu'à ça, hein, il pense vraiment qu'à ça. Il y a deux jours encore, je déjeunais avec un de ses adjoints, un premier adjoint, pour parler de la place Pinel. Bon, on ne pense qu'à ça, en réalité, véritablement. Donc, immédiatement, ils ont supprimé, évidemment, Marius Pinel, sociologue, dans une grande angoisse, mais et ça reste dans l'histoire, et nous avons ces marques-là. C'est que, en fait, la place Pinel est le lieu de tous les glissements. On commence à apercevoir que le glissement numéro 1, c'est effectivement le kiosque qui ne sert à rien. Le glissement numéro 2, c'est ce glissement Bebel. Il y a aussi, évidemment, un toboggan. Il y a eu même plusieurs toboggans, et on va glisser sur les toboggans. Et donc, il y a, dans la place Pinel, on le voit tout de suite, pas mal de choses à regarder. C'est ça le problème de la place Pinel, c'est ce qui fait aussi que la conférence peut durer des heures et des heures, et que le temps passe, et on sent déjà qu'on est accroché, qu'on est passionné, que moi je suis prêt à parler des heures, et vous, vous sentez que vous dites jamais on mangera ce soir, jamais, voilà. Hein, c'est parti, bon, c'est fini, quoi, c'est fini, bon, on ne pourra pas y arriver. Et donc, on commence à regarder la place Pinel, on fait le tour, on voit pas derrière des éléments monumentaux, passons à l'image suivante. Alors, l'image suivante, donc, nous ramène à l'histoire, véritablement. L'histoire, donc, de... voilà, en effet, comment il s'appelle ? Jean Montari... Marius Pinel, tel qu'il fut. J'en ai pas parlé. Marius Pinel, bon, là aussi, c'est toute une histoire. Marius Pinel est donc mort en 1928. C'est un compagnon de Jean Jaurès. C'est le fondateur à Toulouse de la Bourse du Travail, que la municipalité vient de fermer, précisément, parce que c'était la CGT et tout ça. C'est un socialiste rouge, comme l'indique à sa barbe. Il est mort un peu jeune, et donc la municipalité d'Étienne Billière lui a rendu hommage, immédiatement, pour signifier, effectivement, la gloire de ce grand homme, compagnon de Jean Jaurès. Mais... continuons ce temps qui passe. Voilà l'architecte, Jean Montariol. Alors lui, c'est un personnage tout à fait particulier, c'est le grand coupable de la place Pinel, le grand responsable. Alors, pour ceux qui connaissent Toulouse, Montariol est absolument partout dans Toulouse, mais il y a trois kiosques dans Toulouse. Il y a trois kiosques. Alors ceux qui connaissent vraiment Toulouse, on sait qu'il y a une bibliothèque municipale à Toulouse, la bibliothèque du Périgord, dans lequel il y a un immense kiosque signé par Jean Montariol, tel que... quand un client de la bibliothèque entre dans la bibliothèque et s'il parle, par exemple, avec sa petite amie en disant « les dames de la bibliothèque sont idiotes », les dames de la bibliothèque entendent ceci, « les dames de la bibliothèque sont idiotes », parce que le son monte, il passe par le kiosque, il redescend sur la dame de la bibliothèque et qui impressionne la chose. Alors si je dis à ma petite amie « peut-être beaux yeux, tu sais, les dames de la bibliothèque le savent, etc. » et comme elles sont amoureuses de moi, elles sont furieuses. Bon, très bien. Donc ce système est là. Mais pour ceux qui connaissent aussi très bien Toulouse, ils savent très bien qu'elle est la plus ancienne et plus grande piscine municipale ouverte d'Europe et sans doute de l'univers à Toulouse, construite par Montariol. Il y a dedans un magnifique tas de cailloux, de rochers. Au sommet de ce tas de rochers, il y a effectivement un kiosque en miniature qui n'est autre que le kiosque de la place Pinel. Donc Montariol était à peu près fou, il faut le dire. Et donc il a construit la ville avec trois kiosques qui se répondent, qui ne servent absolument à rien, sauf l'un pour prévenir les dames de la bibliothèque, l'autre en haut d'une piscine et le troisième, place Pinel. Donc évidemment, il a construit aussi beaucoup de chiottes, beaucoup d'écoles primaires, des choses comme ça. Ensuite, il a collaboré pendant la guerre et ensuite, il a été un peu puni, mais c'est pas grave, on avait besoin de lui. Et donc, il a fini par mourir un jour. On passe à la suite des images, on va se promener. Alors voilà donc, on est dans le kiosque. On a un plaisir fou à être dans le kiosque de place Pinel, le jour comme la nuit. Donc, le jour, on voit se développer la place Pinel autour avec ses différentes aires. Là, donc, on est un petit peu du côté rue Ferdinand Bébel. On aperçoit l'aire de jeu pour enfants, l'aire de jeu actuelle. On voit la pelouse, qui est une pelouse ouverte. Et on voit qu'effectivement, la place Pinel est un espace dans lequel on peut entrer et sortir et dans lequel on va le voir, des grilles apparaissent. Parce que la modernité, le temps, le XXe siècle, le XXIe siècle, c'est le temps des grilles. En 1929, quand la place Pinel est conçue, c'est un grand carré avec au milieu un kiosque qui était prévu, qui commençait en 1933. Et puis ensuite, au fil du temps, la place Pinel va se remplir. Le XXe siècle, le XXIe siècle, c'est le temps de remplissement du monde. Les Indiens d'Amérique, les Australiens le savent bien, la multiplication des grilles. Donc, après la guerre, on fait une école primaire, oui, voilà. Ensuite, on fait un boulot de Rome, spécialement pour les vieux. Ensuite, on fait une heure de jeu pour les enfants, spécialement pour les enfants. Récemment, on vient de créer un espace canin, spécialement pour les chiens. Pour que ça ne pas. Et chaque fois, on met des grilles pour séparer un petit peu les espaces, hein, bien entendu. Il ne reste plus qu'un espace commun, libre, qui est effectivement la pelouse, dans lequel encore quelques Indiens, quelques poètes, quelques chiens refusant l'espace canin, quelques enfants refusant l'espace pour enfants, quelques vieux refusant l'espace pour les vieux, se rencontrent, chient, chantent, etc. Ils font des choses, comme le personnage qui est là. Voilà, passons un petit peu à la suite, vous allez voir les espaces se déployer, c'est une histoire du monde. Alors là, on a une maison, autour de la place Pinel, telle qu'elles sont, vous voyez des maisons, disons 1900, briques, assez belles, une autre vue un peu plus loin, dans une rue, vous allez voir, c'est à la fois d'une grande banalité, une grande beauté, donc c'est briques, toulousaines. La image suivante peut-être. Voilà, donc là ici, un des plus grands ésotéristes de la place Pinel, qui est le garagiste Gezi, hein, qui est là, ici présent, avec son moteur Motrio. La rue se développe avec ses signes de passage. On passe un peu à côté. Bon, sur le garage de Gezi, on peut parler deux heures, mais on va éviter. Donc, on continue un petit peu. Là, on est sur le versant. Là, on revient vers l'espace de jeu pour enfants, qu'on admire. Alors, on comprend donc la présence des grilles, très nombreuses, qui sont là. On voit le toboggan, avec en haut du toboggan, qui est de couleur bleue, un petit espace que nous appelons en général général un confessionnal d'altitude, parce qu'on monte là-haut, on se confesse et enfin on glisse. Hein, et donc on glisse sur les fesses après avoir avoué ses péchés. Par-dessous, il y a une petite table dans laquelle on peut préparer ses péchés et différents instruments. Et en général, donc, les pédophiles se réunissent autour du toboggan, regardent ce qui se passe et voilà, et on est un peu rassemblés. Voilà. Il y a aussi un projecteur de bébé qui a été créé un petit peu là. Donc on reparlera en détail de l'air de jeu pour enfants qui est un air circulaire. Continuons un petit peu ce détail. Voilà donc un des lieux les plus ésotériques de la place Pinel. Alors, il s'agit du Pinel Pétanque Club. Alors, c'est autrement dit le PPC. Alors là, il y a un groupe de personnes âgées extrêmement fermées, extrêmement peu sympathiques, extrêmement déterminées, qui demandent de l'argent si on va adhérer au PPC. Il faut plusieurs années de montrer patte blanche. Alors là, moi, j'ai pas encore réussi à entrer au PPC. Alors, mais voilà, c'est très difficile parce qu'ils sont en grande difficulté, parce qu'il y a des gens qui, dont moi, dont Sébastien Lespinasse et quelques autres, qui prétendent jouer gratuitement à leur guise sur le terrain de pétanque de la place Pinel. Ils sont donc furieux. Et donc, récemment, ça, c'est une photo prise hier, un type vengeur n'a pas hésité à écrire au Pinel Pétanque Club. Voilà. Mais ça va être effacé probablement parce que voilà. Alors, quand on rentre dans le PPC pour demander sa carte, et on est très mal reçu en général parce qu'ils font une carte, ils font une partie de belote et en même temps ils sont à moitié pétés, on voit cette image admirable, vraiment admirable, vous allez voir, qui est un sommet de l'érotisme contemporain. Voilà, au centre de la place Pinel, on a la Fanny, et quand on rentre là-dedans, on voit un cul de jeune fille qui se soulève, et là, on regarde ça, et là, on sait qu'on est vraiment à Toulouse, les toilettes à gauche et la Fanny à droite, et donc, vous savez, donc, voilà, donc, là, on est au cœur, et au-dessus, évidemment, il y a les différents emblèmes des victoires que le PPC a remportées sur les autres clubs de Balma ou des environs. Ils sont extrêmement durs, c'est une tendance très dure. Donc ça, c'est un point très important, c'est la zone des vieux, c'est la zone de la pétanque. Si on passe à l'image suivante, voilà, donc ici, on est dans les vieux non-pétanqueurs. Donc ça, c'est l'espace senior. Hein. D'accord. Alors là, ont lieu essentiellement les kines. Alors il faut absolument aller faire un kine à la place Pinel. Pour se battre, il faut hésiter à tricher. On peut obtenir un jambon, par exemple, à la fin, si on triche bien. Voilà, et donc c'est le restaurant senior. Club senior, c'est clair, c'est pas pour les chiens, c'est pas pour les enfants, c'est pour les seniors. Hein, voilà, c'est très clair, c'est les choses sont marquées. On continue un petit peu, parce que juste à côté, il y a un espace enfant défavorisé. Voilà. Alors ça, c'est pour les enfants défavorisés, que les parents ne s'occupent pas d'eux, et donc ils sont initiés par des artistes à faire des œuvres d'art. Et donc, les œuvres d'art consistent, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est la municipalité de Toulouse, donc on peint en rose des chaises, on met quelques feuilles, etc. Ça, c'est pour les enfants défavorisés, juste à côté des vieux. Les enfants favorisés sont dans le véritable espace de jeu, hein, ils n'ont pas besoin de choses comme ça. Donc, on leur fait peindre des galets, des choses comme ça, et voilà, ils ont cet espace, ils sont heureux là pendant l'été. Voilà, et, voilà ils sont bien là, voilà. Voilà. Parfois, ils ont planté des tomates, et avec Serge Pay, on vient voler les tomates parce qu'on est un peu cruel. Voilà. Une image suivante, peut-être. Vous voyez, c'est une richesse. Alors là, bon, on arrive à un des points sur lequel, excusez-moi, là, il nous est arrivé avec Sébastien et quelques autres de faire des conférences de 3-4 heures, rien que sur ce point. Il s'agit de l'espace canin. Alors, l'espace canin, c'est une des réalisations les plus extraordinaires de la municipalité de Toulouse, d'Oust-Blazy-Moudenc. Juste à la transition, c'est une réalisation extraordinaire. Il y en a plusieurs à Toulouse, mais le concept de l'espace canin, c'est extraordinaire, parce que donc, il y a une théorie mathématique, donc il y a deux espaces, l'espace canin et l'espace non canin. Qu'est-ce que l'espace non canin? C'est tout espace moins l'espace canin. Alors ici, par exemple, visiblement, nous sommes dans un espace non canin, hein, voilà, donc il n'y a pas de chien, en effet, voilà. Et là, véritablement, donc, à travers une grille, donc il y a un espace canin, et les chiens sont prévenus, donc il y a écrit pour les chiens qui savent lire espace canin. Voilà. Il y a des chiens qui ne savent pas lire, alors il y a donc un petit panneau qui représente une sorte de milou, là, c'est des chiens qui ne savent pas lire, ils sont assez nombreux. Et puis sur la porte, il y a diverses choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace canin? C'est un espace où les chiens, surtout, n'ont pas envie d'entrer, naturellement. Les chiens sont absolument contre tout espace canin. Tout chien qui se respecte est cynique par rapport à l'espace canin. Non, l'espace canin, c'est un lieu, en principe, où les chiens sont censés les chier. Mais les chiens se refusent absolument à les chier dans l'espace canin, naturellement. Les chiens sont libres, les chiens sont des poètes de la liberté, véritablement. Les chiens contournent l'espace canin par tous les moyens. Or, cependant, et ça, on a observé la chose, ça nous étonne énormément, dans cet espace canin, quoi que son chien, il y a des crottes. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Il y a eu des colloques, hein, il y a le fameux colloque de Rome, espace canin 2013, où donc il y a plusieurs hypothèses. Donc, alors, la première hypothèse, la municipalité apporte des crottes la nuit pour encourager les chiens à venir. Certains partisans des corbières, de Bugarach, etc., croient les crottes extraterrestres. D'autres croient que les crottes sortent du sol, etc. Bon, il y a plusieurs hypothèses. Enfin, en tout cas, alors, voilà l'espace canin. Alors, ça pue, hein, voilà. Alors, simplement, ça pue pas en hiver. Voilà, l'espace canin sous la neige, c'est une des très belles photos impressionnistes de ce moment. Donc, la neige aussi tombe sur l'espace canin. C'est extrêmement beau. Voilà. Et avec quelques amis, dont Sébastien, quelques autres, on est allé, donc, parce que vous avez des totems qui sont là, qui servent en principe pour que les chiens viennent pisser. Et donc, le soir de la première défaite de Moudenc, on est allé avec 5 ou 6 prier pour la défaite de Moudenc. Et on avait mis des lumières un peu partout, parce que c'est le grand odeur de ça. On a mis ça en ligne, et donc, on a fait une grande prière. Et alors, là, évidemment, Moudenc, que j'ai rencontré plusieurs fois, et qui s'intéresse beaucoup aux travaux qu'on fait sur lui, et sur son œuvre, a pris une résolution, vous savez qu'il a été réélu récemment, et donc, instantanément, enfin dans les 6 mois qui ont suivi, il a entramé les travaux que j'ai pu constater hier, alors voilà une photo, de la situation actuelle de l'espace canin, parce que là on arrive à un grand problème, l'espace canin est un aménagement en cours. Voilà. Donc depuis quelques jours, l'équipe Moudenc, après un an de réflexion, aménage l'espace canin. Et donc ça veut dire, les grilles ont été arrachées, les pieds ont été arrachés, et là on est tous, tout Toulouse, mais les Chinois aussi, tout le monde, est dans l'attente de ce qui va surgir de cet aménagement. Les chiens sont là inquiets, enfin véritablement, parce que la municipalité Cohen, prolongeant le travail de Moudenc, a installé des distributeurs de sacs à crottes, juste à côté, qu'évidemment nous avons tous utilisé pour mettre des tas de choses dedans, sauf des crottes, évidemment, bien entendu. Mais là, voilà, il y a quelque chose. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la place Pinel est héraclitéenne, c'est-à-dire qu'elle est dans le lieu du passage. La place Pinel, on ne passe jamais deux fois dans la même place Pinel. Il y a quelques jours, un chien, bon, policé, un chien honnête, un chien sarkozyste, pourrait-on dire, allait chier dans l'espace canin tranquillement. Là, c'est plus possible. Ça sera plus le même espace canin. Donc, on ne chie pas toujours dans le même espace canin, c'est vraiment la question. Donc, la place Pinel est traversée par l'histoire, par le temps qui passe. On le voit. L'espace canin. Regardez l'image suivante, une vision générale du chantier actuel. Regardez ce chantier. Il y a plus rien. Il n'y a plus la grille, il n'y a plus les plots. Et là, on est dans l'attente, et moi, il me tarde de revenir à Toulouse à la fin de la conférence pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans le chantier. Hein, voilà, la semaine prochaine, parce que l'équipe municipale travaille, ils sont comme des fous. La municipalité Moudenc réduit les subventions à tout, à la culture, à tout. Mais tout passe dans l'espace canin, évidemment, qu'on restaure. Il sera peut-être en marbre, c'est pas très bien. Voilà le chantier. Bon, on est très inquiet. On est très enthousiaste aussi. Image suivante. Alors, une des grandes actions de la première municipalité Moudenc, à la transition de Blasie, ça a été la rénovation de l'espace de jeux pour enfants. Alors, pendant une dizaine d'années, il y avait un espace de jeux pour enfants qui était à l'époque bodhisienne, avec un toboggan et surtout un grand dauphin sur lequel, avec un certain nombre de poètes, nous allions souvent faire des poèmes sur le dauphin, et nous nous consacrions aussi à installer des objets que nous ramassions dans le monde entier, par exemple des ossements humains ramassés en Arménie sous le toboggan, parce que l'idée était d'unifier pédophilie et nécrophilie, et donc les enfants glissaient sur le toboggan et en même temps il y avait les ossements dessous, et donc on avait un effet qui nous intéressait beaucoup et on faisait des poèmes autour de ça. Quand la municipalité l'a su, donc ils ont consulté les habitants du quartier et donc ils ont demandé si on voulait pas changer l'espace de jeux pour enfants. Donc les gens du quartier, très gentiment, qu'on ne contacte pas, on était tout à fait d'accord, personne n'a vu ça, parce qu'ils voulaient un espace canin rond, les gens du quartier, on a fait une consultation démocratique en effet, et avec, disons, des choses pour empêcher les vers de terre d'entrer, et donc une espèce de masse de mousse pour que les culs des enfants ne touchent pas le sol, enfin quelque chose comme ça. Donc ça a été réalisé, et donc voilà donc cette réalisation, donc vous voyez, donc, création d'une nouvelle aire de jeux pour enfants, là c'est un événement important pour nous, voilà, on a fait des photos, 600 heures de travail, on passe à la suite, on va voir le chantier, la transformation. Non, ça c'est l'ancienne aire de jeu pour enfants, telle qu'elle était. Vous voyez, l'ancien toboggan avec des ossements dessous. On passe à l'image suivante. Ça c'est un temps, on ne verra plus ces photos, hein, ce temps-là, ça n'existe plus. Et là, on est dans la nouvelle aire de jeu pour enfants, et là, face au kiosque, un gigantesque coq. Alors, pour ceux qui ont des problèmes psychologiques, moraux, religieux ou n'importe, ça peut arriver. Renoncer à la psychanalyse, renoncer au Dieu, au diable, etc. Vous allez, la nuit, passer une heure ou deux sur le coq. Et là, vous vous balancez. Lentement, éventuellement en récitant quelques phrases d'un roman de Giscard, des choses comme ça, hein, voilà. Et au bout d'un moment, vous voyez mieux, hein, voilà. Ce coq est un coq vraiment magique, véritablement. Hein, il est bienfaisant. Alors voilà donc l'espace avec le sol mou vert, très beau, la grille qui entoure les enfants, et donc il y a aussi un projecteur d'enfants sur grille utilisé assez régulièrement. Voilà les bancs, voilà l'école par derrière, le kiosque admissible. Une autre image peut-être. Voilà donc cette fameuse aire de jeu pour enfants qui est dominée elle-même par une chouette de Minerve, naturellement orientable, sur les positions, l'orientant vers le kiosque, vers le kiosque. Et puis il y a toute une série de systèmes. Alors, le projecteur d'enfants est sur la droite, le coq, vous le reconnaissez là. Et vous voyez bien qu'on a un espace rond qui vient répondre dans la modernité à la rotondité du kiosque. Et donc, le kiosque est vide, l'espace de jeu pour enfants lui-même est parfois vide, comme c'est le cas là, mais souvent, il est plein d'enfants, en effet, qui vont à leur tour, parfois, dans le kiosque, essayer leur voix. Et de temps en temps, je vais en confesser quelques-uns dans le confessionnal d'altitude, qui est là-haut placé. Voilà donc l'installation. Cette installation a été immédiatement augmentée, parce que, évidemment, sur la gauche, on a encadré de gris l'espace de pelouse qui était là, parce qu'on ne voulait pas que les enfants se mêlent sur la pelouse aux chiens, ou les chiens aux enfants. Et donc, la grille gagne, les espaces se séparent, il y a l'espace des enfants, l'espace des vieillards, l'espace des bouleurs, l'espace des poètes, etc. On continue un petit peu. Vous voyez, ça va être un petit peu long. De temps en temps, il y a des événements place Pinel. Ici, un marché. Voilà, donc, les gens déposent des choses, vendent, viennent, vont, etc. Il y a aussi des habitants. Ça sert à quelque chose, une place. On continue, si on se promène. Voilà des événements historiques très importants. En voici un. Donc, l'histoire traverse ça, la place Pinel. Enfin, il faut pas dire l'illusion. Les poux sont de retour. Prévoyez le grand nettoyage pendant les vacances. Alors, c'est une phrase, comme beaucoup de phrases de la place Pinel, extrêmement puissante. Hein, extrêmement puissante. On voit bien bon, les allusions multiples. Hein, voilà, l'année d'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le grand nettoyage pendant les vacances, on voit à peu près les allusions nombreuses. Alors, pour les historiens passionnés, ils savent peut-être que la place Pinel est un lieu où a eu lieu la dernière bataille napoléonienne avant Waterloo, qui fut, on ne sait même pas si on a gagné ou a perdu, en tout cas, il y a pas mal de gens qui sont morts, puisque le 10 avril 1814, les forces anglaises et espagnoles, les forces de Wellington, les forces espagnoles et portugaises sont arrivées jusqu'à Toulouse. Elles ont été arrêtées par le maréchal Soult. On s'est battu sur les hauteurs et on s'est battu place Pinel en particulier. Et donc les Toulousains ont dû penser les poux sont de retour. Enfin voilà. Et vous imaginez le sens extraordinaire de cette phrase les poux sont de retour. Vous sentez les anagrammes, les possibilités multiples. Et on sent qu'on peut le crier dans les rues les poux sont de retour, les sous sont de retour, les proux sont de retour, les proux, enfin on ne sait plus très bien. Enfin voilà. Les poux sont de retour, c'est le grand cri que pousse la place Pinel dans son école. Il y a mieux encore, je ne sais pas si c'est l'image suivante, une affiche sur les pénétrations dans l'école. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est juste à côté de ça, on peut lire ceci. C'est absolument incroyable, enfin voilà. Bon, on a tous notre quart de pédophile, les pinalisateurs. Et donc, il y a écrit « Interdiction formelle de pénétrer dans l'école en dehors des heures d'ouverture ». Quand on voit ça, on ne sait plus où on en est. Voilà, cette phrase est tellement obscène que, bon, voilà, on se dit « Il n'y a que l'éducation nationale qui peut inventer ça, voilà ». C'est scandaleux, on est dans le kiosque, on voit ça. Et les gens le taguent, évidemment, avec une très grande énergie. Non, on se dit, on va faire de la poésie, on va faire une Francis Ponge, on en a pour des heures et des heures à parler de ce panneau. C'est un scandale absolu. Et il est affiché, bien entendu, et les instituteurs sont fiers de ce panneau. Et tout à fait étrange. L'école est derrière, et on voit effectivement que la poésie a encore du chemin à faire. Passons à l'image suivante. Alors là, les choses changent. On arrive dans nos activités avec la place Pinel. Une de mes grandes activités avec la place Pinel, autrefois, mais le temps n'est plus possible, consistait à téléphoner place Pinel. Alors quand je me trouvais avec mes amis dans le désert du Xinjiang ou au Mexique ou en Arménie, et qu'on avait un moment de blues, ce qui arrive parfois dans ces pays désertiques, vraiment parfois, et parfois même en Irlande, voyez, et que vous êtes pris les 2 heures du matin, vous imaginez, vous êtes, je ne sais pas, à Urumqi, vous sortez du carrefour, on était là à Urumqi pour voir le carrefour, il n'existe plus non plus, plus rien n'existe. Et donc quand vous êtes à Urumqi, vous êtes allé voir le carrefour, vous avez acheté une tortue avec des yogourts, par exemple, et vous êtes pris dans un moment de blues, vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, voilà. Et là, soudain, avec vos amis, vous dites, et si je téléphonais à Place Pinel? Et bon, à ce moment-là, on prend le numéro de la Place Pinel, la cabine qu'on a pris, et on a le plaisir, par exemple 2 heures du matin en France, de faire sonner le téléphone place Pinel. Voilà. Et alors là, on est heureux parce qu'on est là, on est seul, on fait 2 ou 3 à Urumqi, en Irlande, aux États-Unis ou n'importe où. Enfin voilà. Et on fait sonner le téléphone de place Pinel. On se sent beaucoup plus seul et maintenant beaucoup moins seul. Il y a quelque chose qui se produit. On espère que quelqu'un répondra. On sait que personne répondra, mais en même temps, on espère, on n'attend pas. Et voilà. Et donc c'était quelque chose d'extrêmement important, les cabines téléphoniques. Seuls en Europe, peuple digne de ce nom, les Anglais résistent. Hein, ils maintiennent leurs cabines parce qu'elles sont peintes en rouge. Et en France, eh bien, voilà, cette chose que vous voyez là, si vous allez place Pinel, vous ne la reverrez plus. Elle a disparu. Elle a disparu. Alors, ça pose la question, faut-il restaurer la cabine téléphonique? Mais quel état, la place Pinel, il faut restaurer? Est-ce qu'il faut restaurer le hors état? L'état de 1929, sans le kiosque. Est-ce que c'est l'état de 1933, avec le kiosque? Est-ce que c'est l'état espace canin numéro 1? Ou est-ce que c'est l'état espace canin numéro 3, qui va apparaître, etc.? On ne sait pas. Donc, la place Pinel, on revient au problème héraclitéen, on ne sait pas. Hein, elle se change tout le temps. On ne sait pas comment la restaurer. Quel est le véritable état de la place Pinel? On ne rencontre jamais la même place Pinel. La place Pinel est toujours une autre place Pinel. C'est pour ça que je la photographie compulsivement depuis quelques années. Parce qu'en effet, je ne peins pas l'être, dit mon montagnes. Je peins le passage, en tout cas je photographie le passage, je photographie l'évaporation permanente de la place Pinel vers autre chose, qui est ici la disparition de la cabine téléphonique. Alors vraiment, je vous propose une méditation quant à vous-même. Pensez à la cabine téléphonique disparue de la place Pinel et au désastre que ça représente pour les gens qui aiment téléphoner place Pinel et qui ne peuvent plus téléphoner place Pinel. Ça, c'est l'effet de la mondialisation. On peut aller où on veut dans le monde, on ne peut plus téléphoner place Pinel. Alors on passe à une autre image peut-être. Hein, tout ceci est assez triste. Alors maintenant, on rentre vraiment dans les explorations. Donc là, donc pour FR3, bon, qui m'avait demandé de faire une émission un jour sur la place Pinel, on avait donc fait une proposition d'exploration radicale de la place Pinel. Donc voilà l'équipe de tournage qui s'apprête à tourner sous le kiosque de la place Pinel, parce qu'en effet, sous le kiosque de la place Pinel, il y a un espace que personne ne voit, mais qu'il fallait aller voir. Alors, il y a ainsi des espaces inconnus dans le monde connu. Il n'est pas besoin d'aller sur la planète Mars pour voir ce qui est inconnu. Il n'est pas besoin d'envoyer des robots Pathfinder 1 ou 2 ou d'aller voir la planète PC338-99, qui peut-être est une planète qui ressemble à la Terre, d'après les informations de la NASA hier. Il suffit de plonger une caméra sous le kiosque de la place Pinel. Et donc là, il y a un espace vide qui est une crypte sur lequel les vieux Toulousains disent qu'il y a du cadavre. Et en fait, nous allons chercher véritablement. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et donc là, vous voyez un homme qui plonge une caméra. Ceci est passé à la télévision, c'est une mission immortelle. Et à l'intérieur, sous le kiosque de la place Pinel, on voit ceci, image suivante. Vraiment, là, c'est renversant. C'est le grand secret de Toulouse, c'est le grand Tholos. Hein. Vous savez que le Tholos, c'est en effet le centre de culte en Grèce. Et Toulouse, c'est le grand Tholos pour les ésotéristes. Voilà l'intérieur du grand Tholos. On le réserve à la grâce pour la première fois. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les fenêtres. Hein, voilà. On voit un tas d'ordures hein, qui sont là. Donc c'est un petit peu ce qui reste sur Mars quand les hommes seront passés. Donc des bouteilles, des canettes de bière, etc. Mais surtout, au milieu, là, un grand parapluie ouvert et renversé. Alors là, c'est sidérant. Il y a à l'intérieur de la place Pinel un grand parapluie ouvert, noir, d'époque Montariol et renversé. Personne ne sait comment il est rentré là. Il y a plusieurs hypothèses. Hein, plusieurs hypothèses. Donc, on a cassé le kiosque, on a mis le truc à l'intérieur, ça paraît un peu idiot. D'autres disent que c'est le parapluie de Montariol qui a construit le kiosque autour de son parapluie. Bon, en tout cas, ce qui est de certain, c'est que le parapluie est un des plus grands objets poétiques de tous les temps. J'en veux pour preuve les aventures de Winnie the Pooh. Vous savez que dans Winnie the Pooh, quand effectivement il y a le grand orage, hein, Winnie the Pooh est un des grands textes poétiques de tous les temps, donc il y a le grand orage et Winnie et son ami Porcinet renversent un parapluie. Et donc l'aventure commence, un peu comme l'histoire de Moïse dans son berceau de Jean, quand on se met sur le parapluie renversé. Alors effectivement, la poésie véritable, c'est effectivement le parapluie renversé, c'est le renversement. Alors maintenant, vous comprenez la structure diabolique, géniale du kiosque pinélien et malarméenne. Le kiosque pinélien est fait d'une structure supérieure, donc il envoie le son vers le bas, sur le sol. En dessous, il y a une courbe renversée que le parapluie renversé. Quand les amoureux, par exemple, s'allongent sur le kiosque de la place Pinel, sur le sol, ils sont en même temps sodomisés par la pointe du parapluie qui est là, et donc pris en sandwich entre la courbe d'en haut et la courbe d'en bas, qui se renvoie sans arrêt, c'est en fait un sandwich de réalité invisible. C'est-à-dire c'est un double pli qui se renversait, et on est en train de cheminer vers la réalité montariolesque du kiosque. Ce kiosque est un kiosque impossible, parce que c'est un retournement de tout le kiosque, que le parapluie, comme une signature inversée, signale à l'intérieur du kiosque, comme la possibilité de tous les kiosques qui sont impossibles, tels que c'est le kiosque de la place Pinel. Donc, le kiosque pinélien est en effet un poème, et donc, puisque c'est un poème, les poètes se doivent d'aller régulièrement illustrer ce lieu en faisant des actions dans ce poème, en disant des poèmes, mais pas simplement en disant des poèmes, parce que la poésie ne consiste pas simplement à dire des poèmes, la poésie c'est agir, c'est faire, c'est remuer la terre, le sol de la réalité, c'est retourner les parapluies. Les poèmes ne sont parfois qu'un effet superfétatoire, secondaire, une trace de la poésie, c'est pas parfois simplement cela, mais c'est souvent simplement cela. La poésie, c'est un peu autre chose. Et donc, effectivement, la place Pinel va devenir un lieu poétique par excellence, c'est-à-dire un lieu d'aventure, de recherche, et un lieu de répétition et de multiplication des possibles, de miracles. Et donc, c'est ce qui va apparaître peu à peu dans les images qui vont suivre, je crois, si je ne me suis pas trop trompé. Voilà, donc allons peut-être à l'image qui suit encore. Qu'est-ce que nous allons voir apparaître? Voilà, alors ça, ah oui, ça c'est une petite vidéo, bon peut-être un peu là. Oui, c'est une vidéo, bon, un peu l'ésotérisme peut-être.
Le 26 place Pinel.
Un peu l'ésotérisme.
Le 26 place Pinel.
Bon, là, c'est une vidéo à laquelle vous ne comprenez rien, c'est le cinéma d'ultra-réalité nouvelle. Bon, 26, c'est le nombre de places qu'il y a place Pinel, de numéros. Avant, il n'y en avait que 24, il y en a maintenant 26 depuis peu. 26, il faut savoir que c'est un nombre absolument sacré, parce que c'est le nombre de Dieu pour tous les kabbalistes. En effet, 26, qui est le double de 13, c'est le seul nombre entier compris entre un carré et un cube. Le carré étant 25, le cube étant 27. Et donc, c'est le nombre du déploiement infini, effectivement. Et donc, pour nous, il est très important que la place Pinel ait 26 numéro, parce que c'est effectivement le lieu du Pinello à l'infini. Voilà, à l'infini. Bon, là, il y a de longues théories. Alors, la grande action que nous menons en place Pinel consiste dans les pinellisations. Qu'est-ce que c'est que les pinellisations ? La pinellisation, vous allez être dans quelques instants, mesdames et messieurs, invités à faire une pinellisation. Ça sera la première pour certains dans votre vie, et ce sera la première à la grâce, dans le cloître de l'abbaye de la grâce. Vous allez être littéralement infectés, transformés, métamorphosés, et probablement il ne se passera rien non plus en même temps. Qu'est-ce que c'est qu'une pénalisation ? Eh bien, la pénalisation, c'est le fait de récupérer, de marquer un peu partout des signes de la place Pinel. Alors, peut-être on peut essayer sur la photo 37, on va voir tout de suite un signe, par exemple, dans le désert du sud algérien, aux limites tout à fait sud-algériennes, voilà un de mes amis qui est en train de faire une pénalisation, il tient un peu de terre de la place Pinel dans la main, et il vient avec des cailloux d'inscrire Pinel. Bon, très peu de temps après, les islamistes ont massacré tout le monde dans le secteur, et donc, voilà, c'est vrai d'ailleurs, hein, ceci est vrai. On passe à l'image suivante, là on va voir donc des gens en train de ramasser de la terre, place Pinel, voilà, ils sont en train de ramasser de la terre, place Pinel, pour l'amener en Chine en particulier. Donc voilà, un ramassage de terre, place Pinel. Je montre une autre image avant d'expliquer un petit peu les fondements. Voici donc dans le désert du Taklamakan, je crois, voilà, du côté de Minfang, donc trois mains qui viennent de déposer dans une dune, enfin c'est-à-dire dans un trou dans la dune, un peu de terre de la place Pinel. Une autre photo peut-être, encore. Ah oui, là voici donc un musée en Angleterre, donc un petit pot spécialisé de place Pinel est posé près d'un étrusque. Bien entendu, ça s'appelle une pénalisation. Une autre pénalisation, avant de rentrer dans quelques détails, voici dans le Gange, mademoiselle Marcillac, donc descendante des princes de Marcillac, naturellement, est en train de pénaliser le Gange avec une efficacité certaine, voilà. Que quoi d'autre encore ? Une autre pénalisation, peut-être, comme ça, en photo. Ah oui, voici donc, en Belgique, une pénalisation d'une pelleteuse, voilà. Je vous montrerai pour expliquer un petit peu les choses, voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ramasser de la terre de la place Pinel et de la mettre dans un lieu quelconque du monde. Ce n'est pas si simple. Évidemment, il y a une ritualisation, on va dire Marius Pinel en l'accompagnant, il faut le faire avec le plus grand sérieux, dans l'espoir qu'il ne se produise absolument rien, mais peut-être qu'il va se produire quelque chose, on va le voir tout à l'heure. Ramasser la terre de la place Pinel n'est pas si simple, parce que ça pose aussi une question: qu'est-ce que c'est que la terre de la place Pinel? Et c'est pas si simple, parce qu'ou bien on prend la terre de surface, toujours mobile, changeante, apportée par le vent, apportée par les municipalités, apportée par les crottes de chiens mêlées, une terre impure. Ou bien on prend la terre pure, la terre des profondeurs. Non, est-ce qu'on prend la terre du sol ou la terre du sous-sol ? Quelle est la vraie terre ? Et alors quand on entend cette question, la vraie terre, on tombe sur les questions, mais qu'est-ce que c'est que la terre juive, la terre palestinienne, la terre française, etc. Où est la vraie terre ? Et est-ce qu'il faut creuser ? Est-ce qu'à un certain point, s'arrête la terre à la place Pinel ? Et qu'est-ce que c'est que la terre véritablement ? La terre est un lieu impur, un lieu transformationnel, un lieu de passage. Et donc, prendre la terre à la place Pinel, après un colloque de réunion, on a décidé que toute terre place Pinel était la terre à la place Pinel, quelle que soit la profondeur. Donc, on est extrêmement ouvert en matière de terre à la place Pinel. Par exemple, la municipalité de Moudin vient d'amener hier un camion de terre pour recouvrir le lieu pour la terre à la place Pinel. On a décidé, évidemment, j'ai décidé parce que là j'étais seul, que cette nouvelle terre était aussi la terre place Pinel par contact. Ça se débat, hein. C'est pas du tout évident. Il y a des gens qui sont contre, hein, évidemment. C'est, voilà. Mais en tout cas, voilà. Une fois qu'on a un peu de terre place Pinel et qu'on la met dans un petit sac, on va dans un endroit qu'on choisit sur le lieu où on se trouve, dont on décide qu'il est véritablement important pour une pinellisation qui doit se faire de manière extrêmement sérieuse, avec un cœur pur, en disant Marius Pinel, en prenant éventuellement des photos, en tout cas en le notant, le réécrivant, et dans l'espérance de rien, absolument de rien. C'est une théologie totalement vide, il ne se passe rien. Et donc ça peut se passer à peu près où on veut. Par exemple, donc, ça peut être amusant de pinelliser le palais du Buckingham, c'est assez intéressant. Et voilà. Ça peut être assez intéressant de pinelliser des lieux sacrés ou pas sacrés. Par exemple, nous avons pinellisé avec enthousiasme un jour la voiture de Berlusconi alors qu'il sortait d'un hôtel. Trois jours après, il était élu. Bon, c'était efficace, mais nous avons aussi pénalisé, alors je vous montre une ou deux vidéos assez minables, vous allez voir, par exemple, la vidéo d'une pénalisation du Vatican pendant la messe. Donc ça, c'est important. Évidemment, on a pénalisé assez souvent le Vatican, il faut le dire. En voilà une. Voilà, on est au Vatican. Donc les choses se passent. Hein, voilà. Pendant que les choses se passent, d'autres gens balancent la terre de la place Pinel. Voilà, les religieux sont là. Et donc le Vatican est pénalisé, ça ne dérange personne, ça nous rend heureux, et ensuite évidemment on peut discuter. Hein, voilà. Voilà voilà, on peut couper cette vidéo-là, enfin voilà. C'est une vidéo sacrale, mais on peut le faire dans les endroits absolument pas sacrés. Ah oui, si, alors par exemple là, donc, c'est donc un de mes amis qui pinélise au Karabakh devant les statues de Papik et Jamik face au canon.
C'est un moment éminemment politique que nous vivons en ce moment, puisque par la pinélisation, nous allons reconnaître l'existence de la Terre, de la République du Haut-Karabakh, ici même, en présence de Lilith, en face de Papik et Mamik. Mes amis, nous pinélisons Marius Pinel. Marius Pinel. Marius Pinel.
Voilà une pénalisation arménienne. Une dernière peut-être depuis un téléphérique en Irlande.
C'est un moment éminemment.
Ça doit être ça, par exemple, voilà.
Attendez, je comprends.
Ah non, là, ça c'est le de mémoire. Belfort, enfin, peu importe, enfin voilà.
C'est la résistance héroïque du peuple de Belfort.
Mais c'est un pasteur, hein. Voilà, donc
faisons
c'est
mémoire du colonel d'Enfer Rochereau, protestant. Nous allons pinéliser ce site. Avec mon camarade Éric Gallia. Attention Éric. Marius Pinel. Marius Pinel.
Alors, vous pouvez être un petit peu inquiet sur l'état de l'église protestante. Parce que deux pasteurs, hein, voilà. Et donc, l'église protestante est à peu près infestée par les pinélisations. Donc, voilà. Alors, évidemment, la pinélisation, normalement, c'est prévu pour ne rien produire. Je vais juste, ensuite, nous allons pinéliser ensemble, raconter juste un petit épisode, un des grands miracles. Enfin, bon. Deux peut-être grands miracles de la pinélisation. L'un qui s'est passé à Lourdes, un jour avec quelques amis, nous sommes allés pinéliser à la grotte de Lourdes. Comme il y avait trop de religieuses à l'intérieur, on a pinélisé en face, donc de l'autre côté du gaffe de Lourdes, bien sûr. Donc on a vu un petit peu trou, on a mis la terre de place Pinel dans le trou, et on a dit Marius Pinel. Pendant ce temps, les autres disent Ave Maria, etc. Et à peine a-t-on dit Marius Pinel que la terre s'est mise à remuer de l'autre côté, et on a vu face à la tute de la grotte, ça s'appelle la tuta, et voilà, on a vu sentir une taupe. Une taupe noire. Et donc, face à la Vierge, une taupe, voilà. Et puis, là, il y a quelques jours, j'ai pinélisé un poulailler d'un ami qui est spécialiste d'un tableau très, très, très important qui est les ambassadeurs d'Holbein, dont un des évêques, un des personnages se trouve à Lavore, était un évêque de Lavore, et donc, on était à côté de Lavore, on a pinélisé son poulailler, et quelques jours plus tard, la poule Pipa, elle s'appelle Pipa, sa poule, a produit un œuf trois fois plus gros que d'habitude, sur lequel œuf, il y avait un crâne dessiné. Le crâne exactement qui se trouvait dans le tableau des ambassadeurs. Il a mangé l'œuf. Voilà. Et donc, les pinélisations, normalement, ne produisent rien, mais comme toute chose, elles produisent parfois des miracles. Alors, on va dire, la disposition en poésie, c'est de croire absolument que rien ne va se produire et d'être absolument disponible au miracle, hein, la disponibilité de cela. Alors, la pinélisation va se passer ainsi, de manière tout à fait rituelle. Il y a très peu de spécialistes dans la salle, mais j'ai quelques militants habituels, militantes habituelles. Et donc, la pinélisation va se passer dans le cloître, ici, pendant quelques instants. Nous allons nous réunir autour du cloître, nous allons sortir, ensuite vous pourrez revenir ici. Je vais vous distribuer un peu de vraie terre de la place Pinel, de la bonne, vraiment de la bonne, cueillie hier, et nous allons jeter dans le cloître de l'abbaye de la Grâce un peu de terre de la place Pinel avant de revenir ici pour écouter vraiment des actions autres. Voilà. Allons dans le cloître. Suivez-moi.